Chapitre 2. La ville déserte se dressait autour de Nietzsche, silencieuse et énigmatique. Pivotant sur elle-même, la magicienne étudia les bâtiments sombres, les murailles incroyablement hautes, les grandes colonnes sculptées. Quelle désolation! De toute évidence, ce n'était pas Ildakar. Si la lune inondait les ruines de sa lumière argentée, pas une seule lampe ne brillait à l'intérieur des bâtiments. Et pas davantage de torches. Comme les orbites d'une tête de mort, toutes les fenêtres et les portes étaient vides et obscures. Dans l'air raréfié et mordant, Nietzsche distingua la forme sombre de grands rochers à l'extérieur de la cité, un indice laissant penser qu'elle était en haute montagne. Furieuse et déconcertée, Nietzsche s'écarta du puits de la Slif. Tout son corps la torturait, comme si le voyage lui avait fait l'effet d'un séjour dans une lessiveuse.
« Slif !»
cria-t-elle. Seul un silence pesant lui répondit. La créature de vif argent, hautaine et méprisante, avait expulsé Nietzsche n'importe où avant de l'abandonner. Au milieu de ce qui semblait être une place, un mur de pierre à hauteur de taille isolait le puits du reste de l'espace. Après avoir recraché la magicienne, la Slif s'était réfugiée dans les profondeurs de son réseau souterrain. Aucun moyen de la localiser. Alors qu'elle reprenait son souffle et tentait de recouvrer son sens de l'équilibre, Nietzsche se sentit bizarrement vide et détaché de tout. Lors de ses précédents voyages dans la Slif, elle n'avait rien éprouvé de semblable.
« Reviens !»
cria-t-elle en se penchant vers le puits.
« Ce n'est pas ma destination, je veux voyager !»
La voix de la magicienne se répercuta dans le tunnel obscur, puis lui revint comme un boomerang. À part ça, pas un bruit. La Slif refusait de répondre. Cette créature-là, car il y en avait plusieurs, était une fervente admiratrice de l'empereur Soulacane, depuis longtemps retournée à la poussière. Comme on pouvait le redouter, elle avait découvert que Nietzsche ne servait pas le même maître qu'elle. Informée que Soulacane était mort après avoir été vaincu deux fois, elle s'était estimée libérée de son serment professionnel. En conséquence, pour se venger, elle avait laissé sa voyageuse au milieu de nulle part.
« Slif, quel est cet endroit ? Où suis-je ? »
Piégé ici, Nietzsche ne pourrait pas contribuer à la défaite d'Outros. Souffrant d'une migraine, les oreilles bourdonnantes, la magicienne se demanda si elle garderait des séquelles de son voyage. Avant de s'enfuir, se souvint-elle, la Slif lui avait dit quelque chose d'étrange.
« Ildakar n'existe plus. Je ne peux pas t'y conduire. En essayant, j'ai ricoché. La ville était partie. »
À l'évidence, en tentant d'atteindre sa destination, la créature aussi avait été blessée. Mais comment Ildakar pouvait-elle ne plus exister? Ou était-ce seulement le puits de la Slif qu'on avait scellé ou détruit? Quelle autre raison aurait pu expliquer l'échec de ce voyage? Quelque chose d'autre revint à la mémoire de la magicienne. Avant qu'elle le tue, le capitaine des Norukai, Kor, lui avait révélé que le roi Calvert prévoyait de lancer sur Ildakar une attaque massive. Comment la cité, si légendaire fut-elle, aurait-elle pu se défendre contre l'armée d'Outros et une meute de Norukai? Pour se défendre, les membres du Douma avaient-ils invoqué le linceul de l'éternité? Sans vergogne, s'étaient-ils exilés pour laisser le reste du monde affronter la menace? Oui, ça ressemblait bien à ces gens sans foi ni loi. Si c'était ça, Nietzsche ne pouvait compter que sur elle-même. Avant tout, elle devait découvrir où elle était. Ses cheveux blonds, désormais courts, sales et emmêlés, elle arborait encore des taches de sang sur sa peau et sur sa robe noire. Après le combat contre les Norukai à Serimundi, elle s'était sentie très mal et le voyage n'avait rien arrangé. Résultat, son don était au plus bas. Malgré sa lassitude, elle recommença à scruter les alentours. Des colonnes géantes, des bâtiments de pierre, de grands monuments, des édifices publics. Quand elle entreprit de traverser la place, ses semelles crissèrent sur les dalles irrégulières. Partout, des tours menaçaient de s'écrouler. Des arches s'effritaient, des fontaines étaient plus emplies que de poussière et des sculptures jadis sophistiquées se délitaient. Toutes les structures, démesurément grandes, visaient à impressionner les visiteurs. Ce gigantisme rappelait celui du palais de Jagang à Alterang, ou la forteresse du sorcier d'Aïdindril. En son temps, la ville fantôme avait été une capitale surpeuplée, ou au minimum un carrefour commercial stratégique. Aujourd'hui, toutes les issues étaient barrées ou murées, comme dans une crypte géante. La cité des morts. Un bruit attira l'attention de Nietzsche. Tournant la tête, elle aperçut sur une grande esplanade deux cerfs qui broutaient ce qui restait de verdure. Dès qu'ils virent la magicienne, ils s'éloignèrent un peu, puis reprirent leur festin. En avançant, Nietzsche découvrit l'énorme statue d'un inconnu. Renversée, l'œuvre d'art gisait sur un côté. Son socle en marbre faisait la taille des fondations d'une belle maison, et, debout, le géant devait atteindre au moins le troisième niveau d'un immeuble standard. Quelqu'un lui avait réduit les jambes en miettes pour qu'il bascule de son piédestal. Se concentrant sur la scène, Nietzsche capta de très anciens relents de violence et de mort. Les bras du personnage, cassés aussi, gisaient à côté de lui, proie facile pour les mauvaises herbes et les lianes. Sautant sur la statue renversée, Nietzsche l'étudia sans se soucier de la poussière et de la mousse. Sur le visage hautain de l'homme, des sourcils épais surmontaient un nez crochu. Sous sa grosse couronne, des mèches de cheveux jaillissaient comme des serpents en vadrouille. Ouverte sur un sourire dévasté par le passage du temps, la bouche dévoilait une dent particulièrement pointue, rien de naturel là-dedans, aurait parié la magicienne. De plus en plus inquiète, Nietzsche sauta à terre, fit le tour de la statue et découvrit les mots gravés sur le socle, très abîmés mais encore lisibles. « Empereur Kourgan ». Nietzsche regarda de nouveau la tête du personnage. La dent pointue, c'était sans doute le croc de fer que Kourgan arborait pour intimider ses interlocuteurs. Violent et capricieux, cet empereur avait écorché vive son épouse, la livrant ensuite à des fourmis rouges. Tout ça pour la punir de sa liaison avec le général Outros. Révulsé par ce crime, les sujets de Kourgan l'avaient renversé avant de traîner sa dépouille dans les rues. Puis, ils avaient saccagé sa statue. 15 siècles plus tard, Nietzsche se réjouit de voir la preuve de la chute d'un tel monstre. En même temps, elle sut enfin où elle était. Orogang, la capitale de l'Empire de Crocs de Fer, une construction qui s'était écroulée comme un château de cartes après la chute de son maître. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place, mais ça n'expliquait pas pourquoi la ville était un cimetière. Même avec la mort de Kourgan et l'explosion de son empire, pourquoi abandonner une telle mégalopole? Qu'est-ce qui avait poussé les habitants à céder aux rats et aux araignées de si magnifiques structures? Et où étaient-ils allés? Une épidémie les avait-ils exterminés? Ou la famine? La sécheresse peut-être? Mais pourquoi toutes les issues étaient-elles barrées ou murées, comme pour empêcher quelque chose de sortir? Nietzsche passa devant un vaste amphithéâtre creusé à même le sol. Au centre, entouré de gradins circulaires, se dressait une scène. C'était de là sans doute que Kourgan s'adressait à ses sujets, mais les gradins vides tombaient en ruine comme la scène. Au-delà de l'amphithéâtre, Nietzsche découvrit une autre statue géante, en très bon état celle-là, comme si on l'entretenait régulièrement. Le personnage, un guerrier aux muscles d'acier, portait un casque et une cuirasse sur laquelle figurait jadis la flamme de Kourgan, mais on l'avait effacée, laissant une cicatrice sur la pierre. D'une grande beauté, l'homme semblait bien plus majestueux et noble que son maître. Ce héros, Nietzsche l'avait rencontré sur un champ de bataille. Le général Outros, le grand stratège de Kourgan, parti d'Orogang pour conquérir l'ancien monde au nom de son maître. Sans se soucier de l'incompétence de son chef, Outros avait accepté la mission les yeux fermés. Les ordres pour un homme comme lui, c'était sacré. L'état de la statue révélait que la population d'Orogang avait révéré le général. Après des siècles, le site de la statue était propre et l'œuvre d'art elle-même n'avait subi aucun outrage. Au pied du socle, Nietzsche eut la surprise de découvrir des fleurs fraîches. Quelqu'un était venu ici, très récemment. Soudain méfiante, la magicienne regarda autour d'elle. Toujours aucun mouvement autour des bâtiments, pas le moindre bruit non plus. Un ermite ou un fanatique était-il venu fleurir les lieux? En tout cas, personne ici ne pouvait savoir qu'Outros était revenu à la vie après 15 siècles de pétrification. En sus de la solitude oppressante du site, Nietzsche sentit qu'on l'épiait. Au fond, Orogang était peut-être beaucoup moins fantomatique qu'elle le pensait. Sondant les ombres, elle crut capter l'esquisse d'un mouvement. Les cerfs affamés? Non, c'était un son différent. Des bruits de pas, précisément.
Qui va là ?
Demanda Nietzsche en tournant sur elle-même. Elle mobilisa son don qui lui sembla faible et étranger. Les yeux rivés sur le plus grand bâtiment de l'esplanade, son entrée flanquée de grandes colonnades, elle remarqua que la porte principale était entr'ouverte, laissant apercevoir de profondes ténèbres. Plus loin, une ombre passa furtivement devant une fontaine avant de s'enfoncer dans l'obscurité. D'autres silhouettes humaines vêtues de gris apparurent brièvement.
« Montrez-vous !»
cria Nietzsche.
« Sortez de vos cachettes et venez me voir !»
Dans la cité déserte, sa voix retentit comme un gong dans un temple. Ses mains volant sur les couteaux qui lui battaient les hanches, elle s'apprêta à vendre chèrement sa peau. Des silhouettes émergèrent enfin des ombres. Des gens très nerveux qui murmuraient entre eux et s'obstinaient à ne pas lui répondre.
« Qui êtes-vous ? »
Nietzsche pivota sur elle-même et constata qu'elle était encerclée. Cela dit, elle sentait à peine la présence de ces inconnus comme s'il s'agissait de spectres. Des fantômes peut-être, mais bien plus nombreux qu'elle l'aurait cru. Hors de la ville, la chiche lueur de l'aube révélait la présence d'autres spectres autour des grands rochers. Des créatures sortaient de tous les trous et convergeaient vers la magicienne.
« Je ne veux pas vous faire de mal, mais je n'hésiterai pas s'il le faut, »
dit-elle sans éloigner les mains de ses armes. Comme si l'arrivée de l'aube les excitait, les fantômes parlèrent plus fort, mais pas moyen d'identifier un mot dans leur charabia. Nietzsche recula jusqu'au socle de la statue et leva les yeux sur le visage de pierre qui regardait droit devant lui. Soudain, comme s'il venait de capter un signal, les spectres se ruèrent sur leur proie.